L'amorce avec Jean-Simon Buis.
Il est 5h, bon matin. On est mardi le 8 octobre 2019. J'espère que vous allez bien. Ça passe vite pareil, hein? Le mois d'octobre, on le verra pas passer non plus. Je vous dis, on va bientôt se retrouver dans les décorations des fêtes. Juste sorti à certains endroits, hein, en passant, là, les décorations de Noël qui sont côte à côte avec les décorations d'Halloween. J'ai vu ça dans quelques magasins grande surface déjà. Ce sera pas long qu'on va ranger nos citrouilles puis qu'on va sortir nos guirlandes. Je vais pas être plate, là, mais ce temps-ci de l'année, on dirait, passe encore plus vite que le reste de l'année. C'est peut-être parce que on a un peu moins d'ensoleillement, hein. Je sais pas si vous commencez à le sentir un peu le soir. Le soleil se couche pas mal plus tôt, déjà vers 6h30, là, il n'y a plus rien dans le ciel, là, c'est noir complètement. Le coucher, vous voyez, là, du soleil, c'est 18h13, ça fait que la dernière lumière dans le ciel, là, assez rapidement, s'en va. Ce qui fait en sorte qu'on a l'impression que les journées passent très, très vite. On a moins d'ensoleillement un petit peu. Par contre, il y a des bonnes nouvelles pour les prochains jours, que, parlant de soleil et de lumière dans le ciel un petit peu, parce qu'on a eu de la grisaille un peu plus hier, avec un petit peu de pluie en matinée. Aujourd'hui, ça a été revu au mieux. Le pronostic pour la météo, maximum de 15 degrés avec alternance de soleil et de nuages. Demain, mercredi, très belle journée également qui est prévue. 16 degrés avec du soleil. C'est la plus belle journée de la semaine selon les prévisions actuelles. Jeudi, maximum de 16 degrés avec alternance de soleil et de nuages. Retour des nuages vendredi avec 14, mais on n'annonce pas de pluie. Et pour la fin de semaine, à long terme, si on commence à prévoir un peu ce qui s'en vient, un peu plus à long terme, samedi maximum de 13, 60% de risque d'averse. Ce qu'on va surveiller un peu cette semaine, ce sont les minimums. La nuit, on devrait descendre aux alentours de 2-3 degrés. Donc, on dit que cette nuit, on est par endroit descendu à 2. La nuit prochaine, on va descendre à 3 et ça varie. Là, ça remonte à 9-10 pour le reste de la semaine. C'est sûr que les nuits sont plus fraîches un petit peu. Et en ce moment, on a 9 degrés. À Québec pour commencer la journée. Dans l'actualité, ce matin, on va passer beaucoup de temps sur le débat des chefs d'hier soir, qui a peut-être un peu moins fait couler d'encre parce que c'est un débat qui est en anglais, mais ça reste un débat extrêmement important parce que la majorité des Canadiens parlent anglais. Hein? C'est sûr qu'au Québec, c'est les débats en français qui nous touchent un peu plus, mais je trouvais ça important de vous donner un petit peu le ton de ce qui s'est passé hier. C'est sûr qu'on va y aller d'extrait un peu moins long, étant donné que c'est en anglais, là. D'ores et déjà, je peux vous dire que ça a été un ton un peu différent du dernier débat. D'abord, n'oubliez pas qu'il y avait 6 personnes sur le plateau plutôt que 4, là, parce que Maxime Bernier du Parti populaire et Elisabeth May du Parti vert se rajoutaient aux 4 autres chefs, puis c'était pas vraiment la même formule non plus, là. On n'était pas dans un face-à-face. Ce qui fait en sorte que la plupart des analystes s'entendent pour dire ce matin que c'était un peu cacophonique, là. Il y a plusieurs échanges où est-ce qu'on s'entendait pas trop parler. Il y a même un moment où est-ce qu'il y avait des débats de part et d'autre un peu là, de la salle, alors que Justin Trudeau et Scheer étaient dans un débat, puis Jack Meetsing en était avec un autre, avec Yves François Blanchet. Bref, on n'entendait rien à certains moments de ce débat-là. Donc, c'est pas nécessairement une formule que fait l'unanimité. Ceci étant dit, encore un peu les mêmes enjeux qui sont revenus. Encore une fois, pour le contenu, je reviendrai pas précisément sur ce qui s'est dit parce que il y a pas beaucoup de nouveaux. Sachez que la loi 21 sur la laïcité, c'est encore pointé le bout du nez. C'est encore alimenté passablement les débats. Justin Trudeau, je vais vous faire entendre un petit extrait plus tard, là. Mais Justin Trudeau qui est allé de façon un peu plus ferme sur sa position par rapport à la loi 21. On a parlé un peu de SNC-Lavalin, on a parlé d'environnement et on a parlé d'avortement également. Mais c'est dans le ton un peu que je veux vous démontrer que c'est pas pareil. Parce qu'on a vraiment vu un Andrew Scheer différent de la semaine dernière. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a dit Andrew Scheer, bon, en tout cas, pour la plupart, c'est le perdant du débat, le français l'a pas avantagé, ça n'a pas été évident pour lui, il n'a pas réussi à se dépêtrer. Ben, on l'a senti beaucoup plus incisif hier soir, beaucoup plus à l'aise, évidemment, dans sa langue maternelle. Et je pense qu'un des bons extraits pour vous démontrer ça, c'est une attaque qu'il a lancée à Justin Trudeau assez rapidement dans la soirée. On voit que c'est une attaque qui est bien formulée, qui est assez droite au but et qu'on comprend mieux un peu que les autres attaques qu'elle tentait de formuler la semaine dernière.
Justin Trudeau only pretends to stand up for Canada. You know, he's very good at pretending things. He can't even remember how many times he put blackface on. Mr. Trudeau, you are a phony and you are a fraud and you do not deserve to govern this country.
Alors, il va pas de main morte, hein? Andrew Scheer qui dit Justin Trudeau est très bon pour prétendre des choses. Il ne sait même pas combien de fois il a fait du blackface. C'est quelqu'un qui porte toujours un masque. Vous êtes un imposteur, vous ne méritez pas de gouverner le pays. Ça, c'est quelque chose qu'on retient assez bien. Puis en plus, il n'y a personne qui y parlait par-dessus. Donc, on a bien compris ce qu'il voulait dire. Scheer a attaqué également Yves-François Blanchet avec on sent que entre les conservateurs et le Bloc québécois, il y a peut-être une rivalité qui se forme compte tenu du débat de la semaine dernière, où justement, Yves-François Blanchet fait bonne figure. Dans les intentions de vote, le Bloc québécois est un peu au-dessus du Parti conservateur au Québec. Donc, on sent qu'il y a une nécessité, ou en tout cas une tentative de la part des conservateurs d'attaquer un peu plus les bloquistes. C'est ce qu'a fait Andrew Scheer hier soir, alors qu'il a attaqué Yves-François Blanchet sur le Bloc québécois en tant que tel et ce que représente le parti de François Blanchet.
We know that Monsieur Blanchet's priority is working with the Parti québécois on sovereignty. So we know that if votes for Bloc québécois MPs mean that Justin Trudeau stays prime minister, avec le Bloc, le plus ça change, le plus ça reste le même.
Même quelques mots en français dans un débat en anglais, imaginez, là, parce qu'on comprend qu'il s'adressait plus spécifiquement aux Québécois, vu qu'on parlait du Bloc québécois. Il dit les priorités du Bloc québécois, on le sait, là, c'est de travailler avec le Parti québécois pour la souveraineté. Un vote pour eux, c'est s'assurer que Justin Trudeau reste au pouvoir. Un autre message qui a été clairement énoncé par Andrew Scheer hier soir. Il y a eu beaucoup de débats acrimonieux entre Andrew Scheer et Justin Trudeau hier soir, ce qui a permis à Jagmeet Singh, le chef du NPD, d'avoir peut-être une des meilleures lignes de la soirée, qui a d'ailleurs fait réagir l'audience.
What we have here is Mr. Trudeau, Mr. Scheer arguing about who's worse for Canada. Really, we got to start presenting who's going to be best for Canada.
Alors, M. Singh dit, ce qu'on a ce soir, c'est M. Trudeau et M. Scheer qui s'ostinent ensemble à savoir qui va être le pire pour le Canada. Il dit alors que ce qui devrait nous intéresser, c'est qui est le meilleur pour le Canada. Bonne ligne, bien envoyée par Jagmeet Singh. Maxime Bernier était présent au débat. Vous savez que pendant le début de la campagne électorale, c'était un enjeu à savoir si le chef du Parti populaire pourrait participer au débat des chefs, celui d'hier soir et celui de jeudi soir en français. Ça a été le cas. Maxime Bernier a attaqué son ex-collègue Andrew Scheer, ex-rival à la chefferie du Parti conservateur aussi, en affirmant qu'il n'était pas un vrai conservateur.
Andrew, are you a real conservative? No, I think you are liberals. Why are you pretending to be something that you are not?
Alors, il a dit, Andrew Scheer, je pense que t'es pas un vrai conservateur. Je pense que t'es un libéral. Tu veux pas ramener l'équilibre budgétaire. Sauf qu'il s'est fait renvoyer une droite assez rapidement par Andrew Scheer parce qu'il a dit, mais à quel Maxime Bernier exactement je parle? Est-ce que je parle au Maxime Bernier qui était pour la souveraineté dans les années 90? Est-ce que je parle au Maxime Bernier qui était ministre des infrastructures sous Stephen Harper et qui encourageait des subventions aux entreprises? Il a un peu bouché Maxime Bernier suite à cette attaque-là également. Je vous parlais de Justin Trudeau et de sa position sur la loi sur la laïcité. Ce que je vais vous faire entendre, c'est pas un extrait du débat, c'est un extrait en français, en conférence de presse, après le débat, mais qui résume bien sa position. Il a été beaucoup plus véhément hier dans sa position sur la loi 21 qu'au débat en français, curieusement, ben, plus ou moins curieusement. Vous comprenez que en anglais, c'est un public différent un petit peu. Il a tenté de rassurer les Canadiens parce que, bon, au Canada anglais, c'est pas une loi qui passe très, très bien. Il a même attaqué Jagmeet Singh pendant le débat en disant, mais Monsieur Singh, vous portez vous-même un signe religieux puis vous n'êtes pas foutu de vous opposer à la loi 21. Vous trouvez pas que c'est logique un petit peu? Et donc, Justin Trudeau a été vraiment très ferme. Il a clarifié sa position après le débat sur la loi 21.
J'ai toujours dit exactement la même chose sur la loi 21 en français qu'en anglais. Je ne fermerai pas la porte à une intervention possible d'un gouvernement fédéral parce que le rôle d'un gouvernement fédéral, ça va toujours être de défendre les libertés fondamentales de tous et de chacun.
Alors, vous le saurez avant d'aller à l'urne, de passer voter le 21 octobre. Vous avez la position très, très claire de Justin Trudeau, alors que c'est un peu plus nébuleux dans d'autres cas. Mais cette fois-ci, Justin Trudeau, il est allé vraiment là, avec sa position probablement finale là-dessus sur la question. Un gouvernement de Justin Trudeau pourrait probablement s'attaquer à la loi 21 ou tenter de la faire invalider. Je termine avec une petite extrait qui m'a fait sourire parce que Maxime Bernier, bon, fait pas parler toujours de lui pour les bonnes raisons. Et si vous aviez un mot à coller à Maxime Bernier et à son parti, ce serait probablement pas vert. Oui, il y a un parti vert, là, mais le Parti populaire, c'est peut-être pas le parti le plus environnementaliste auquel on pourrait penser. Et pourtant, en raison de nombreuses déclarations de Maxime Bernier, là, notamment sur les changements climatiques. Et pourtant, hier soir, pendant le débat en anglais, Maxime Bernier, il est allé de l'affirmation surprenante que son parti était le seul véritable parti vert au Canada.
At the People's Party, we are the only real environmentalist party. Why? We want to do things that are possible. We want to do things that are possible to protect our health, our air, our environment, our water.
Bon, alors, M. Bernier dit, nous, nos mesures sont réalistes. On veut faire des choses qui se peuvent pour protéger notre air, notre environnement, notre... Bon, c'est à vous de savoir si vous croyez Maxime Bernier là-dessus. On passe à de la politique municipale. Après cet aperçu du débat des chefs en anglais, en passant, il y en a un dernier, le débat des chefs en français, même formule à peu près jeudi. Mais hier soir, il y avait conseil municipal et avant ça, il y avait des conférences de presse, des apparitions du maire Labeaume. Maire Labeaume qui n'était pas là en passant au conseil municipal parce qu'il y a un proche présentement là, qui est alité, qui est malade, il est au chevet d'un proche. Mais il y a une conférence de presse qui a retenu beaucoup l'attention hier, et c'est sur la vitesse, les limites de vitesse dans les rues de Québec. Sachez qu'à compter du printemps 2020, le portrait va changer un petit peu. Le maire Labeaume qui a décidé d'investir 60 millions de dollars sur 5 ans pour éradiquer les comportements dangereux. Et ça va passer par l'administration Labeaume, là, selon l'administration Labeaume, par le passage de la limite de vitesse à 50, 40 ou 30 km/h selon les zones. Autrement dit, là, dans les zones résidentielles, oubliez ça, 50 km/h, vous allez vous retrouver à rouler à 40 la plupart du temps et à 30 km/h à certains endroits. Et ils ont calculé que si un automobiliste dans les zones résidentielles roule à 50 km/h plutôt que 30, c'est seulement 48 secondes qu'il gagne en termes de temps. Bon, ça c'est un calcul de la ville. Alors d'ici 2020, 50 km/h sur les principaux boulevards, 40 km/h sur les rues principales des quartiers et 30 km/h dans toutes les autres rues résidentielles et autour des écoles. Principaux boulevards, je me demande à quoi il fait référence parce que dans la plupart des boulevards, c'est déjà 50 km/h. Il n'y a pas vraiment de boulevard à 70. Je vois pas vraiment d'artère qui pourrait être concernée. Là, peut-être que c'est moi qui n'ai pas vite, là. C'est 25-226 si vous envoyez là, des boulevards actuels ou est-ce que c'est 70. Boulevard Amel, oui, effectivement. Il ferait passer Boulevard Amel à 50. Hey, ça serait bizarre, ça. Boulevard Amel, oui, qui est à 70 sur la plupart du boulevard. Ce serait spécial un peu, ça. 50 km/h, déjà qu'on a déjà la sensation que c'est lent un petit peu. Ça. 70 km/h par endroit. Sur le boulevard Amel, là, faire passer ça à 50, c'est spécial un peu. Alors, je vais vous faire entendre le maire Labeaume là-dessus. D'abord, sur la limite de vitesse, Régis Labeaume qui reconnaît que ça va être un défi pour tout le monde, tous les citoyens, y compris lui.
Et ce ne sera pas facile, je le sais, et ça m'inclut aussi. Ralentir, c'est pas facile. Moi-même, quand je me mets à 40 km à l'heure dans mon quartier, les premières fois, je trouvais ça dur, parce que je testais, ça fait des mois que je teste moi-même. 40 km dans la rue principale du quartier, c'est bon. Rendu à 30, on trouve ça pas mal lent. Mais je ne sais pas pourquoi ils le font ailleurs, puis on ne le ferait pas ici. Alors, moi, comme les autres, ça va nous demander à tous et à toutes des efforts.
Oui, ça va être des efforts et des radars. Là. Sachez-le, il va y avoir plus de radars mobiles un peu partout. Là. Donc, il risque d'y avoir une pluie de contraventions à partir de 2020 pour les automobilistes, le temps que les gens ajustent leur vitesse et que les policiers s'attendent de faire des opérations radars dans certains secteurs. Le maire Labeaume qui a dit qu'une des raisons derrière de ça, c'est le fait que dans les quartiers, les gens se plaignent beaucoup. Il y a de l'inquiétude, notamment des piétons, des gens autour des écoles également, sur le comportement de certains automobilistes.
Ben, allez parler aux parents dans les quartiers. Ouais. Tous les gens, les politiciens qui, municipaux vont tous vous dire que la hantise d'un quartier, c'est que les enfants se fassent frapper. C'est la hantise de tous les parents. Puis en plus de ça, le nouveau phénomène, c'est l'augmentation de l'âge moyen. Ben, qu'est-ce que tu veux? C'est des petits pas hein, quand tu vieillis. Tu sais, 10 secondes pour traverser une lumière quand tu es rendu à... De l'âge de mon père, là, ça devient compliqué, tu sais. Alors, vous me dites qu'il y a juste 10 % des accidents, mais les gens ont peur. Les gens sont craintifs. Alors, les gens nous demandent ça.
Donc, dans quelque sorte, il admet que c'est une loi qui est basée sur la peur et non nécessairement sur les chiffres, parce que c'est pas nécessairement le plus grand nombre d'accidents qui se produisent dans les zones résidentielles. Le chiffre de 10 % qui a été avancé. Donc, est-ce que c'est un moyen réellement de réduire les accidents? Les mauvaises langues, disons que c'est surtout un moyen d'aller chercher des tickets. Vous êtes déjà quelques-uns à m'écrire au 25-26, c'est pas long, hein? Quand on parle de tickets ou de moyens de mettre davantage d'argent dans les poches des gouvernements ou des administrations que vous êtes nombreux à réagir. Et vous avez tendance à croire, d'après ce que je lis au 25-26, que c'est davantage pour aller chercher de l'argent dans nos poches que pour d'autres choses. Je termine parce que quand même mention honorable à Régis Labeaume. Vous savez qu'on reproche souvent aux autorités de mettre l'accent uniquement sur les automobilistes, hein, que les automobilistes roulent dangereusement, que ce sont eux qui sont responsables de tout. Et pour une fois, le maire Labeaume hier s'est prononcé sur d'autres usagers de la route, hein, parce que la route doit être partagée, mais il a parlé notamment des cyclistes et des piétons.
Il y a d'autres gens, parfois, qui comprennent ce que j'appelle les cyclistes fous. Il y a des cyclistes à Québec qui sont extrêmement dangereux. Et Chef va vous en parler tantôt. Il faut partager la route, mais ça ne donne pas le droit à certains cyclistes d'agir comme ils agissent. Il y en a qui sont extrêmement dangereux et on ne peut plus accepter ça. Et il y a aussi des piétons téméraires. Il y a des piétons téméraires, puis là, je ne parle même pas des roulis roulants. Alors, oui, les automobilistes, mais les cyclistes fous, ça ne se peut pas. Puis les piétons téméraires, il faut qu'on fasse attention. Moi-même, il faudra que je fasse attention aussi.
Améliorer la sécurité routière, j'en suis. Est-ce que ça passe vraiment par le passage des limites de vitesse de 50 à 40 à 30 km/h? Ça, j'en suis pas certain nécessairement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? Écrivez-moi au 25226. Est-ce que vous êtes pour cette mesure-là de réduire les limites de vitesse dans les quartiers de Québec, boulevard, quartier résidentiel, jusqu'à 30 km/h? 25226, ça va me faire plaisir de vous lire. 5h, presque 16, on prend une courte pause et on jase sport avec Dan Pou. Au retour.
FM 93. Pour être à la fine pointe, de l'information. C'est Bouchard en parle.
Est-ce que t'aimerais que cette personne-là vienne chez vous prendre une bière avec toi puis jaser avec tes amis? Moi, je pense que facteur bière, les gens vont dire « Et François Blanchette? »
Ouais.
Prendrait une bière avec.
Jack Meeting?
Oui.
Trudeau?
Là, ça dépend si vous l'haïssez vraiment sur les idées, mais bon. Andrew Scheer? Il s'annonce qu'il vient prendre une bière chez vous.
Mais je pense sans alcool, mais c'est ça que j'allais dire.
Bouchard en parle. Du lundi au vendredi, dès 5h30. FM 93. Ça me parle.
Solaris Québec, porte et fenêtre.
Sylvain, tu vas pas me parler de Noël?
Absolument, Joanne. Il y a plein de gens qui veulent pas repasser un temps des fêtes dans une maison où l'air froid entre par les fenêtres.
Ah, je comprends où tu veux en venir. Tu veux dire à ces gens-là d'aller chez Solaris maintenant pour réserver leur date d'installation avant Noël.
C'est ça. Et chez Solaris, on achète directement du fabricant. On a donc un meilleur suivi et on économise gros.
Pas pour rien que Solaris installe les meilleures portes et fenêtres depuis plus de 45 ans.
Solaris Québec, porte et fenêtres.
Au 710 rue Bouvier.
Vos lunettes à partir de 79$. La deuxième paire à 25% de rabais. C'est la révolution Scoop Vision.
Scoop Vision ébranle encore le marché. Sur la deuxième paire de lunettes, vous obtenez 25%.
Vous avez donc deux paires de lunettes à partir de 138$.
Le tout prêt en une heure. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'apporter votre prescription.
Vos lunettes au prix d'Internet en succursale, c'est Scoop Vision. Sur Soumande, Kennedy-Lévis, à Saint-Georges et maintenant sur Quatre-Bourgeois, en face de la gare d'autobus.
Pas vrai que tu vas manger ta sandwich plate pour dîner, là. Non, non. Chez Boston Pizza, les menus midi sont à partir de 10$. Soupe ou salade, plat principal, café, à partir de 10$. Go avec la gang chez Boston Pizza. Boston Pizza, c'est bon d'être ensemble.
Est-ce que vos placements pour la retraite sont au bon endroit, au bon moment? Payez-vous trop d'impôts, trop de frais? Et avez-vous un plan personnel réalisé par un planificateur et stratège financier chevronné? Une rencontre avec Jean-Maurice Vézina et son équipe ne vous coûtera rien. Mais je gage qu'elle va vous rapporter beaucoup. Jean-Maurice Vézina. Tirez-en profit à votre tour.
Jean-Maurice Vézina, planificateur financier et membre de Valeurs Mobilières Group Investors, cabinet en planification financière, IG, gestion privée de patrimoine.
Si la musique dans les pubs de 1-800 Got Junk met de bonne humeur,
c'est parce qu'on aime aller dans votre grenier
et dans les coins sombres de votre sous-sol. On fait disparaître la junk
n'importe où,
n'importe quand. Il vous suffit de pointer et ça disparaît. Et si nos camions brillent et nos uniformes sont propres,
c'est parce qu'on est fiers de ce qu'on fait.
On est les authentiques
et les leaders dans notre domaine.
Il vous suffit de pointer et ça disparaît.
Appelez au 1-800-GOT-JUNK ou visitez le 1-800-GOT-JUNK.com.
Une étude clinique chez Syneos Health, c'est aussi sécuritaire que mettre des petits trous sur votre vélo stationnaire et de porter un casque. Bref, vous êtes entre bonnes mains. Et en ce moment, on est à la recherche d'hommes et de femmes non-fumeurs âgés de 18 à 55 ans pour conduire une étude clinique. Les compensations peuvent aller jusqu'à 5 000. Rendez-vous sur monétudesineossanté.com ou appelez-nous au 1-866-262-7427. Cineos Health, pour un futur en santé.
Toton, Nichon, Lolo, Racadjo, Boule. À la Fondation Cancer du sein du Québec, on est experts en la matière. Ou plutôt, dans l'aide et le soutien qu'on offre aux personnes touchées par le cancer du sein. Financement de la recherche, éducation, prévention, service aux patientes et aux familles. Nul n'est mieux placé pour faire une réelle différence que la Fondation Cancer du sein du Québec. Visitez toton.com.
Kansas. Kansas, Point of No Return. La tournée anniversaire, le 1er novembre au Grand Théâtre de Québec. Billets en vente maintenant sur evenco.ca. Collaboration FM 93.
avec Jean-Simon Buy. Lundi au vendredi, 5h, au FM 93.
5h20, bienvenue dans l'amorce. Merci d'être là avec moi chaque matin et merci de m'écrire aussi. Vous êtes plusieurs à réagir sur les limites de vitesse, le fait de baisser les limites de vitesse, notamment dans les quartiers résidentiels à Québec. Et disons que c'est unanime, vous êtes pas mal tous contre et vous trouvez pas mal tous que c'est une mesure qui servira pas à grand-chose. Un petit tour à la météo avant de me tourner vers Dan. Aujourd'hui, très belle journée, maximum de 15 degrés, alternance de soleil et de nuages. Demain, mercredi, maximum de 16 avec du soleil également. C'est la plus belle journée de la semaine demain, la plus chaude également. Jeudi, même température. Par contre, quelques nuages dans le ciel. Maximum de 16 encore une fois. Et ça se couvre malheureusement à compter de vendredi avec 14. Et à long terme, c'est le week-end de l'Action de grâce qui s'en vient. Pour l'instant, c'est que des nuages et des risques d'averses à l'horizon. Mais ça a le temps de changer. On va souhaiter qu'on transfère un peu du soleil qu'on a cette semaine pour le long week-end qui s'en vient. Et présentement, on a 9 degrés à Québec. Dan, bon matin.
Salut, Jean-Simon.
Deux histoires de hockey ce matin concernant deux francs-tireurs de la Ligue nationale.
Exact. Deux gros noms de la LNH, mais deux histoires. Une qui touche le hockey, mais une qui ne touche pas le hockey. Okay. Si je t'avais dit ça touchait quoi, j'aurais brisé mon punch. Je vais commencer avec celle-là. Alexander Ovechkin était hier au stade des Nationals, qui sont en série contre les Cards de Saint-Louis, contre les Dodgers de Los Angeles, pardon, et il a fait le lancer protocolaire au début du match. Alexander Ovechkin, évidemment, est une vedette à Washington. On l'a invité, puis il était très content d'être là. Ouais. Il prenait des photos avec la mascotte, puis tout, tu sais, les selfies avant le match, tout le monde était là. Quand il a fait son lancer, je me suis dit, oh boy! J'ai constaté qu'Ovechkin, dans son enfance en Russie, avait jamais joué au baseball.
Okay.
Mais en même temps, c'est pas le pire lancer protocolaire que tu as jamais vu de ta vie.
Il y a un œil sur le côté, là.
C'est ça. Il y a des caméramans qui l'ont eu d'en face. Ouais, on a tout vu. Mais il a fait un lancer correct, mais on peut pas parler de fluidité ici.
OK.
OK. Sauf que sa déclaration d'après-match est savoureuse. Il dit après le match, à moins que j'aille avec vous à Los Angeles, parce que là, la série se transporte à Los Angeles pour le match 5. Lui, c'est la vedette à Washington, il fait le lancer protocolaire. Tu sais bien qu'à Los Angeles, ils ne demanderont pas à Ovechkin de faire le lancer protocolaire. C'est le porte-bonheur des Nationals. Mais lui, comme pour... Il a pas dit « je vais aller faire le lancer là-bas ». Mais au moins, pour supporter sa gang de baseball, il a dit « à moins que j'aille avec vous autres à Los Angeles ». Puis j'ai bien aimé ça. Puis je trouve ça le fun quand les gars qui jouent dans un sport échange avec les gars d'un autre sport. T'sais, Patrice Bergeron avec Tom Brady à Boston. T'sais, hier, lui, là, Ovechkin, c'est vraiment juste une perception de ma part, lui, il avait l'air d'être chum avec le Vulture Adam Eaton. On sentait que lui et Eaton, c'était des chums, okay. Tellement que quand il a fait le lancer, il l'a fait à Eaton et non au receveur. Normalement, c'est le receveur qui va prendre le lancer protocolaire de la vedette qui est là. Puis c'est Eaton qui est allé au marbre. Fait qu'il a l'air d'être chum avec Adam Eaton. Faudrait que je lise plus, là. J'étais pas au courant de cette relation-là. Steven Stamkos, rapidement, c'est pas compliqué. Il est en beau fusil. Il est fâché. Parce que son équipe, le Lightning, c'est une victoire, une défaite, puis une défaite en prolongation. Et dimanche, contre la Caroline, c'est 44-16 les tirs au but pour la Caroline. Hier, à l'entraînement, il a dit, on a du talent. On travaille pas. On s'assoit sur notre talent. Puis si on change pas d'attitude, la saison va être vraiment longue.
Ouch.
Il n'a pas attendu 12 matchs. C'est un capitaine. Il a fait cette déclaration-là au bout de 3 matchs. Le prochain match du Lightning, tu vas comprendre rapidement que ça n'en est pas une facile. Il joue jeudi contre Toronto.
Mais ça lance un message.
Exact.
Merci beaucoup, Dan.
À tantôt.
À dans quelques minutes. Un petit tour dans le Journal de Québec avant de se laisser. On parle de pénurie de main-d'œuvre et d'une mesure possible, et pas une mesure qui est nouvelle. Là, ça fait longtemps qu'on en parle, notamment ici au 93, et dans Bouchard en parle. Le fait d'arrêter d'imposer les heures supplémentaires pour essayer de contrer la pénurie de main-d'œuvre. Ben là, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a mentionné au Journal de Québec que c'était une des mesures qui était envisagée pour contrer la pénurie de travailleurs. Il a dit « Je suis en train d'analyser ça. J'ai analysé les secteurs qui sont le plus en déficit. C'est là que je vais mettre un accent particulier. » Lui, il dit que c'est les technologies de l'information, la santé, la finance et l'administration. Il dit « Dans le cas où on met cette mesure-là en place, ce serait confirmé dès le prochain budget. Si on fait la balance des avantages et des inconvénients, il y aurait plus d'avantages, particulièrement dans des jobs très bénéficiaires. Déficitaires, pardon. Ils seraient bénéficiaires de la mesure, mais sont déficitaires présentement. » Voilà, je perds mes mots. Mais effectivement, on comprend que ça pourrait pousser plusieurs personnes à donner un coup de plus au travail, à mettre l'épaule à leur roue davantage, parce qu'on sait que des heures supplémentaires pour beaucoup de gens, ça se résume à payer davantage d'impôts et pas en avoir ben plus dans les poches. Alors, on vous demande plus de temps, pour pas beaucoup plus d'argent, c'est normal que ce soit pas très sexy pour l'instant de faire des heures supplémentaires pour plusieurs. Et là, tu viendrais chercher tout un bassin de travailleurs qui auraient peut-être envie de travailler un peu plus. Ça serait certainement une mesure qui aiderait. Présentement, vous donnez un peu l'ampleur de la pénurie de main-d'œuvre. Si on regarde le deuxième trimestre de 2019, ce serait 140 420 postes vacants au Québec. Ça, c'est un niveau record. Un marché dit équilibré, marché de l'emploi équilibré, c'est 80 000 postes vacants. On a quasiment deux fois plus de postes vacants que ce qu'on devrait avoir dans un marché qui a du bon sens un peu. C'est pas nécessairement le chômage ni l'aide sociale qui pose problème. On sait, dans les deux cas, ben, le chômage, par exemple, dans la région de Québec, on est pas mal au plein emploi. Si on regarde l'aide sociale, c'est en baisse constante depuis plusieurs années. Donc, c'est pas réellement ça le problème, là. Ça va être soit par des mesures fiscales, comme l'abolition de l'impôt sur les heures supplémentaires, encore l'immigration qu'on va parvenir à arriver à combler cette pénurie de main-d'œuvre là, c'est certain. Autre mesure qui est évoquée, et là c'est du côté de Restaurants Canada, les restaurateurs qui aussi ont de la misère. Vous savez que le service à la clientèle, restauration, est pas évident vraiment présentement côté pénurie de main-d'œuvre. Et là c'est l'horaire des étudiants collégiaux universitaires qui est visé par Restaurants Canada et qui pourrait être modifié. Bon, en tout cas c'est ce qu'ils demandent, de façon à les accommoder un peu. Là, on sait qu'avec la rentrée, souvent on est encore en pleine saison touristique, ce qui fait en sorte que il y a bien des restaurateurs qui se retrouvent le bec à avec des employés qui retournent sur les bancs d'école. Mais là, on demande, y a-t-il moyen, sans nécessairement de faire de lois ou de règlements trop contraignants, de donner une marge de manœuvre pour la rentrée universitaire, la rentrée collégiale? Ça nous donnerait peut-être un peu d'oxygène. Un enjeu qui va faire encore jaser pendant plusieurs années, aucun doute, la pénurie de main-d'œuvre. Il est 5h26, dans quelques minutes, c'est Bouchard en parle qui commence. Merci d'avoir été avec moi dans l'amorce. On remet ça demain matin, 5h, sans faute. Ciao!
Les meilleurs moments sont disponibles maintenant sur fm93.com. Bouchard en parle commence après cette courte pause.